On accueille à 23h41 Laurent au 39-21. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Laurent?
Moi j'ai 57 ans, je vous appelle de Lille.
D'accord. Et de quoi voulez-vous me parler? Dites-moi.
Ben écoutez, d'un combat que je mène, qui est très difficile, un combat pour les animaux.
Oui.
Aujourd'hui qui sont bafoués par, par une élite sans scrupules, par la grande distribution, par une surconsommation absolument hors norme.
Oui, oui.
Et donc j'ai eu la chance d'écrire un bouquin.
Oui.
Il s'appelle Viande et si vous saviez, parce que je suis boucher depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait un pré-apprentissage.
Oui.
Après, j'ai fait un apprentissage. Et c'est un métier que je ne voulais absolument jamais faire.
Ah oui, comment vous êtes retrouvé là alors?
Bah, tout simplement parce que mes parents n'avaient pas le sou, mon père était en invalidité de travail,
oui,
et
oui.
Ma mère faisait des ménages chez des personnes riches. Et en fait, j'ai trois frères et une sœur, et il fallait, je veux dire, absolument travailler. Et comme moi, mes notes étaient catastrophiques, j'étais toujours le dernier de la classe. Bien évidemment, mon père ne concevait pas d'un train de savate à la maison. Donc, il m'a dit « tu cherches un travail, absolument ». Et donc, à l'époque, c'était comme ça. Et j'ai cherché un boulot dans la menuiserie, dans la boulangerie, un peu partout. Et les portes se sont fermées, j'ai jamais réussi à trouver. Et donc, c'est malheureusement dans une boucherie que je me suis retrouvé, dans une usine. Où en fait, j'étais là pour découper des animaux, malgré que je les aimais tant. Et avec mon père, on allait toujours, je veux dire, dans les prés, voir les chevaux, les agneaux, les moutons, les vaches. Et je ne me voyais jamais faire un métier comme ça. Et en fait, ça a pulvérisé, je veux dire, ma vie. Même si j'essayais de faire autre chose, hein. Au cours de ma vie, mais où j'y suis arrivé pendant deux petites années, où j'ai vraiment réussi à me sortir de ce métier où on voit la mort au quotidien.
Oui, oui.
La rambarde, toutes ces choses-là.
C'est particulier hein, comme métier, très particulier.
Bah oui, très particulier, parce que c'est-à-dire que quand vous avez 14 ans et demi, quand vous commencez à bosser, et puis que vous voyez que finalement, quand vous rentrez, je veux dire, dans les laboratoires, vous êtes jeune.
Oui.
Moi, j'adorais les animaux, vous sentez oui. Le goût du sang.
Vous rappelez de votre premier jour?
Ah oui, oui, je m'en rappelle comme si c'était hier.
Racontez-moi.
C'est un monsieur, un portugais, je m'en rappelle, qui m'accueille dans l'usine, mais d'une gentillesse absolument terrible. Et qui me dit, qui m'accompagne au vestiaire pour me donner une blouse blanche, des bottes, tout ça. Et là, je suis traumatisé. Et là, je suis mais vraiment traumatisé parce que, au fur et à mesure que j'avance dans les locaux, il y avait plusieurs laboratoires,
oui.
C'était une usine, et au fur et à mesure, je vois du sang collé sur les murs, du sang par terre. Je sens encore dans mes narines le goût de la mort, le goût de cadavre. N'ayons pas peur des mots. Et en fait, cette première journée, on me met une longe de porc, c'est-à-dire, vous savez, là où on fait les côtes de porc. Hein, et là, on m'apprend à distinguer les chines, les côtes filets, et compagnie, la pointe, tout, enfin, c'est des termes de boucher.
Oui.
Et là, à ce moment-là, je prends trois coups de pied aux fesses parce que j'avais rien compris. On me montre comment la désosser, je comprends trois coups de pied aux fesses parce que j'ai rien compris, parce qu'à l'époque, je veux dire, les bouchers étaient très très durs. Et en fait, c'est pas que j'avais pas compris, c'est que je voulais pas comprendre.
Oui.
Je pouvais pas comprendre que je pouvais, je veux dire, désosser un animal qui vivait peut-être il y a une semaine auparavant, quoi, qui avait vécu une semaine auparavant. Et ça m'a absolument traumatisé, quoi. Et puis après, donc, les jours passent, et puis après, on fait de la rambale.
C'est quoi de la rambale?
La rambale, c'est tout simplement de la viande dont les dates limites de consommation, les DLC, sont dépassées.
Oui.
Hein, et en fait, on est là, alors on m'apprend à la parer. À la parer, donc tout ce qui est, je veux dire, collant, un peu noir, on le met on le met dans une caisse à part, et qui va servir pour faire les merguez. Hein, quand c'est du bœuf et de l'agneau,
ouais.
Quand c'est du porc ou du veau, ça servira à faire des petites saucisses, la chipolata, la chair à saucisse. Mais et en fait, Et en fait, on part, on repart de ça, on remet de la barde au milieu, on refait les rôtis et ça repart à la vente sans scrupule. Et je l'ai fait donc depuis tout gosse et depuis la nuit des temps, c'est dit ça et encore aujourd'hui. Mais le truc, c'est que je me sens, et c'est pour ça que j'avais envie de me confier, parce que je me sens, si vous aimez mieux, coupable. Je me sens coupable d'une chose que j'ai fait, d'un empoisonnement finalement. D'un empoisonnement parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de clients qui revenaient avec des sachets en nous disant que la viande sentait mauvais, que voilà, c'était pas, je veux dire, voilà. Et le truc, c'est que. C'est, oui, je l'ai vécu. Ah oui,
c'est l'horreur, parce que de la viande pourrie, c'est franchement, c'est dangereux en plus.
Bah ouais, c'est dangereux, parce que vous attrapez les Escherichia coli, vous attrapez la listeria, vous attrapez la salmonelle.
Ouais.
Enfin, vous attrapez toutes des bactéries pas possibles.
Mais vous étiez chez un patron peu scrupuleux, dites-moi.
Alors, justement, c'est pour ça que, et j'insiste, je me confie un peu, j'étais chez un patron, mais ça se passait un peu partout pareil, parce que moi j'avais des collègues, j'ai fait un apprentissage, donc j'ai eu 2 ans d'école, et à l'école, mes collègues qui étaient avec moi, les apprentis bouchers qui étaient avec moi, ça se passait, on parlait ensemble, et ça se passait un peu partout pareil.
Ah oui.
Il y avait peu de gens, je veux dire, qui en fait, peu de bougers, qui à l'époque respectaient les normes d'hygiène. Et donc voilà quoi. C'est là qu'est le malheur. Et le truc, c'est que on conversait ensemble, on discutait et on se disait, bah oui, c'est partout pareil quoi. Finalement, il faut vendre pour vendre, absolument emmener le client, le consommateur à l'achat. Et coûte que coûte, quoi. Quitte à, je veux dire, les empoisonner.
Mais vous n'avez jamais été témoin de gens qui revenaient en vous disant bah, je sais pas, mon fils a fait une intoxication alimentaire, ma femme est malade. Enfin, ça vous est arrivé, ça ?
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais dans les dernières années, là, c'était. Et je l'explique. D'ailleurs dans mon bouquin, parce que dans les dernières années, il y a un père de famille qui est venu me voir et il me dit comme ça, il me dit, il était avec son gamin et donc il dit, mais écoutez, il dit, je comprends pas parce que sa femme était à l'hôpital et il venait se renseigner sur les achats qu'il avait faits. Je veux dire, et je me souvenais bien que bon, je lui avais vendu de la chair à saucisse et puis des émincés de poulet marinés. Or, cette chair à saucisse, de par mes hiérarchies que j'ai fait, la viande n'était plus fraîche, si vous aimez mieux. C'est des viandes qui étaient dans des bacs, dans un liquide visqueux, et qui en fait, étaient coûte que coûte broyées. Et le truc, c'est que, donc j'étais intérimaire, parce que j'ai eu une interruption de métier, et j'ai eu la chance de faire autre chose dans ma vie. Et je le raconte, j'ai pas de honte parce que moi j'étais un passionné de, je veux dire, passionné de la nature, moi je suis passionné de l'être humain. Donc vous imaginez, et passionné des animaux, donc vous imaginez quand vous travaillez dans un milieu comme ça. Et donc j'ai eu la chance de faire 2 ans, de travailler 2 ans on va dire, rubriqueur dans une émission de télé, mais vous savez, régionale, hein, c'est
oui.
Régional,
oui.
Où en fait, j'interprétais un personnage, un guéluron, un joyeux drill qui remettait au goût du jour les astuces de grand-mère, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Donc j'ai galéré, j'ai essayé de faire une petite chaîne YouTube, j'ai galéré, je touchais 0 centime, et donc il a bien fallu que je reprenne le travail de boucher. Parce que voilà, il fallait gagner absolument sa vie. Et là, ce que j'ai vu à partir de 2015, c'était l'apothéose, parce que j'étais intérimaire boucher. Et je disais toujours, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à ne pas se reprocher. J'ai travaillé à des laboratoires, j'ai travaillé avec les rats, avec les souris. Des chairs à saucisses qui étaient faits avec des viandes absolument monstrueuses. C'était des trucs... j'ai plus de 200 photos. Dans mon portable, j'ai plus de 50 vidéos parce que bon,
il y a plein de combines en plus pour redonner un aspect à la viande. Vous avez dû faire ça aussi.
Bah ouais, la combine, elle est simple, hein. Le matin, vous arrivez, vous faites tout simplement les dates limites de consommation dans les rayons, vous revenez, et puis tout ce qui peut passer en fil américain, vous passez en fil américain. Enfin, c'est le célèbre, vous savez, steak tartare, on va dire, du Nord, qui se mange avec les frites. C'est de la viande de bœuf hachée.
Oui.
Donc, et bien souvent, cette viande de bœuf était périmée, et donc on l'a passée. Mais les épices, on la vertu de cacher le goût.
Ah ben oui.
C'est pareil dans les merguez.
Puis là-bas, dans le Nord, ils ont les estomacs bien, bien accrochés.
Ouais, tout à fait.
Ah ouais, je me demande comment ils résistent, les gens. Parce que bon, moi, je ne mange pas de viande depuis maintenant plus de 35 ans. Mais je me suis arrêté du jour au lendemain comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me dégoûtait, en fait. Je pense comme ça, d'instinct que ça n'est pas bon de manger de la viande en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce que vous en mangez, vous, en tant que boucher, déjà ?
Non. Moi, j'ai été dégoûté, je veux dire, j'étais devenu boulémique, hein, parce que je ne supportais pas d'avoir un morceau de cadavre dans la bouche. Bon, mes parents n'ayant pas le sou à l'époque, déjà quand je travaillais dans la boucherie,
pas de viande.
Ils étaient, ouais, sauf le week-end dans les années 80, et donc ils arrivaient, ils étaient fiers de nous mettre sur la table, je veux dire, un petit rôti ou quelque chose comme ça. Mais moi, je ne supportais, du moment où j'ai travaillé dans le métier, je ne supportais plus d'avoir ce morceau de cadavre dans la bouche. Donc j'étais devenu boulémique, mais et c'était en 2015 que j'ai vraiment décidé. J'en mangeais pas, pratiquement pas. Hein. Mais en 2015, là, j'ai vraiment arrêté de manger de la viande parce que déjà on n'a pas le droit de d'enlever la vie à des pauvres animaux.
Ça, vous étiez témoin de ça ? Non, en tant que boucher, vous receviez les bêtes abattues déjà.
Ouais, mais j'ai travaillé un temps en abattoir. Hein. Après, j'ai fait mon apprentissage. Après, j'ai travaillé en abattoir. Donc, j'ai vu comment ça se passait. La L214, quand ils racontent et quand ils font leurs petites vidéos sur Internet, ce n'est absolument pas de la fiction. C'est la vérité.
Ah oui.
Moi, j'ai vu des bêtes qui gigotaient encore au S, où en fait, on leur ouvrait le ventre, quoi. Vous voyez, on leur ouvrait on dit la panse, ou alors étaient égorgés. Moi, j'ai vu des têtes de veau avec des langues, vous savez, de travers, comme ça. Des veaux, c'est des bébés. Et en fait, si vous aimez mieux, le veau, il était la tête de veau. On sentait que la bête avait souffert lors de sa mise à mort. J'ai vu des choses absolument horribles, mais qui m'ont de toute façon tapé, je veux dire, sur le système.
Mais oui, oui.
Et puis, alors le pire, mon cher Olivier, c'est que vous savez, il y a eu le confinement. Et là, j'ai fait une grosse dépression. Et il y a eu le confinement, les restaurants ont fermé. Et là, les gens, ils ont mangé de la viande. Mais les boucheries n'ont jamais autant marché, je veux dire, les supermarchés. Et le truc, c'est que on jetait, écoutez-moi bien, 4 caddies de viande par jour. On jetait à la poubelle 4 caddies de viande par jour. Entre 3 et 4 caddies, dans une moyenne surface. C'était une surconsommation, enfin c'est une surconsommation absolument colossale. Et c'est là que je dénonce, et c'est là que j'ai dit je vais faire un livre. Il faut que tout le monde sache que manger de la viande, eh ben, ça a un prix. Ça a un prix parce qu'aujourd'hui la nature, les océans, les animaux, pour moi ils ont déclaré un cancer. Il n'est pas généralisé. Mais un jour, il peut se généraliser par une surconsommation hors norme. Et puis cette malbouffe, parce que les gens, aujourd'hui, on leur sert trop souvent de la viande avariée, trop souvent des choses immondes, des préparations bouchères immondes.
Vous avez écrit viande, 2 points. Et si vous saviez, 3 points, un boucher de la grande distribution parle, c'est aux éditions VA. Vous racontez quoi dans ce bouquin, tout ce que vous venez de me raconter ?
Tout ce que je vous ai raconté, je raconte tout ce que je viens de vous raconter. Je rentre vraiment dans les moindres détails. Vous me posiez tout à l'heure la question si manger de la viande, c'était dangereux. Bien évidemment que manger trop de viande déclenche des cancers colorectal, des cancers du côlon. On le sait pertinemment. Et c'est vrai qu'il est prouvé que la consommation de viande de bœuf, de mouton, de veau,
et même de charcuterie, aussi, de cheval.
Ouais, mais
vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui mangent de la viande de cheval.
Mais c'est honteux. c'est tout simplement honteux. Et en plus, là-dessus, j'ai une anecdote dans un abattoir où une fois, j'ai vu un cheval, mais je vous promets que c'est la vérité, je raconte dans mon livre, les larmes aux yeux, le cheval, qui était dans les couloirs de la mort. Et vous savez, bah, ça, c'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment tapé sur le système et qui aujourd'hui laissent une trace indélébile. J'ai 57 ans, je suis lanceur d'alerte, je suis malheureusement dans la précarité aujourd'hui parce que vous doutez bien que quand vous lancez l'alerte, vous ne travaillerez jamais plus dans ce milieu.
Ah bah vous travaillerez plus dans ce milieu, de toute
voilà.
façon.
Moi, c'est ce que je voulais. Mais après, pour retrouver un emploi...
Oui. Ah bah oui,
non,
ça doit être...
C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ah, c'est vraiment pas évident. Et le truc... Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas, parce que... Et je profite, parce qu'Olivier, bon, moi, je vous suis... j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'authentique et de sincère.
J'essaie.
Et le truc, c'est que, Olivier, le problème, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit, parce que j'ai fait 2-3 émissions de télévision, vous voyez, pour expliquer.
Mmh.
Et moi, j'ai tout fait pour m'en sortir. Et je profite de votre émission, c'est la première fois que je le dis. J'ai tout fait, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, espèce de salaud, tu nous as empoisonné, t'aurais dû lancer le message avant et tout team. Mais déjà, ça m'aide, je gagne ma vie.
C'est facile, ça? C'est pas si facile que ça, de faire ça?
Non.
Je trouve que vous avez eu beaucoup de courage, moi, déjà, de le faire. Même
voilà.
si ça vous a pris du temps, mais bravo pour ce que vous faites.
Vous
savez,
les
gens qui vous disent ça, c'est les messieurs et les madames, je sais tout, et qui auraient tout mieux fait que tout le monde, généralement. Hein mais vous savez, il y a plein de gens que je connais, mais même moi, le premier, j'ai été parfois à des postes où je souffrais, mais où j'étais payé un bon salaire et je courbais les chines, et puis j'aimais mon métier, donc du coup, je me taisais. Mais j'en ai vu des trucs aussi pas terribles, vous voyez. Et on ne peut pas toujours, comme ça, quitter son boulot en disant « Allez, moi, je largue tout et tout ». Je suppose que vous m'avez dit, hein, vous aviez une famille, faire quand même manger la famille. Donc, on ne quitte pas un métier, en plus, que vous faisiez depuis l'âge de 14 ans.
Voilà. Et quand vous savez, quand j'ai vraiment pété vraiment les plombs, quoi, en fait, je me suis dit, je peux plus laisser faire ça comme ça. Et donc, il y a un journal prestigieux, hein, quand même, Le Parisien, qui m'a fait une page. Il y a des collègues à moi qui ont témoigné aussi pour prouver le scandale sanitaire. Et le truc, c'est que, et une fois, il y a une... Puisque moi, j'ai averti la direction départementale de la protection des personnes, je les ai avertis, je les ai assaillis. Et il n'y a qu'un seul magasin qui s'est fait contrôler et qui a pris des milliers d'euros d'amende, un millier d'euros d'amende. Mais les autres sont passés vraiment comme une lettre à la poste, ils n'ont jamais été contrôlés.
Ce soir, sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Laurent, est-ce que vous pouvez m'affirmer que toutes les grandes surfaces reconditionnent leur viande?
Je peux vous affirmer, sur Europe 1, je peux vous dire que là où j'ai travaillé, là, entre Quimper et Mer, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à se reprocher sur l'hygiène et sur le reconditionnement de la viande.
Et c'était de la grande distribution.
C'était de la grande distribution. Et ça, je l'écris dans mon bouquin. Et le truc, alors, vous savez, il y a une vidéo qui est virale sur Internet, qui a été vue 324 000 fois, mise en ligne par mon éditeur sur YouTube. Ça s'appelle VA Édition, quoi. Puis vous tombez sur la vidéo. Et là où je suis fier de mon combat, c'est qu'enfin les bouchers, tous les bouchers de France, pratiquement, approuvent ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils approuvent.
Vous savez ce qu'ils approuvent d'abord, en premier, c'est qu'on va faire une pause. Parce qu'il y a l'info qui arrive sur Europe 1 et vous allez continuer à m'expliquer tout ça tout de suite après, d'accord?
Ok, Olivier.
A tout de suite, ne quittez pas, vous restez
Merci.
Avec moi et on se retrouve après l'info d'Europe 1. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes avec nous jusqu'à 1h du matin, ce qui fait que vous pouvez nous appeler au 3921, pardon, composer le 3921, c'est ce que je voulais dire, ou nous écrire au 73921, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Laurent, ancien boucher, Laurent qui ce soir nous parle de son livre Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle, c'est aux éditions VA. Laurent qui... en tant que lanceur d'alerte dans la consommation de la viande, hein, le commerce de la viande, nous parle des méthodes qui font peur, hein, puisque Laurent nous parle de quelle manière on reconditionne la viande pour la remettre dans les rayons. Et je pensais à ces beaux jours qui arrivent et ces nombreux barbecues qui, dès le week-end prochain, si ça n'a pas commencé dès ce week-end, vont fumer partout en France. Pensez bien où est-ce que vous allez acheter vos merguez, vos saucisses. Moi, je vous conseille tout de même de retourner chez vos petits bouchers, vous savez, les bouchers de centre-ville, les bouchers... que nos grands-parents connaissaient, les bouchers que nos parents connaissaient, que nous connaissons. Alors, moi, je ne mange pas de viande, voyez-vous, mais quand je suis parfois le week-end à Évreux, eh bien, je vais toujours dans une boucherie, parce que les miens, de temps en temps, mangent un peu de viande, et voilà, je vais chez un boucher qui est un boucher qui a pignon sur rue depuis 40 ans, et croyez-moi que personne n'a jamais été malade en allant dans cette boucherie. D'ailleurs, je le salue, il se reconnaîtra. Hein, c'est la boucherie Saillard à Évreux, et qui est un établissement vraiment, mais comme sans doute tous les confrères petits bouchers qu'il y a dans le centre-ville d'Évreux. Attention à la grande distribution, Laurent, c'est ce que vous nous dites.
Voilà, c'est ça. Vous avez tout dit, Olivier. Le petit boucher, au moins, il pourra vous dire où a vécu l'animal, comment il a été nourri, comment, malheureusement, j'aime pas parler comme ça, mais comment il a été tué. Vous voyez.
Puis je vais vous dire vraiment... un truc. Vous allez me dire si je me trompe, hein, Laurent. Mais un boucher qui joue à ça, vous voyez, un boucher comme je l'ai décrit, un artisan, quoi. Hein. Bon, la boucherie dont je vous parle. Il doit bien y avoir 7-8 employés hein, dans cette boucherie. Mais il y a tellement une clientèle fidèle depuis des dizaines d'années que si vous avez si vous faites ce genre de choses, ça va savoir. C'est un centre-ville, vous voyez, ce sont des petites villes de province, donc ça va très vite hein, s'il y a quelqu'un de malade. Donc... dans la grande distribution, c'est plus compliqué quand vous allez dans une grande surface.
Bien sûr. Et l'affaire Butoni, c'est ce que je dis, l'affaire Butoni, malheureusement, moi je la vivais au quotidien.
Alors je ne sais pas ce que c'est que l'affaire Butoni, j'ai entendu parler de pizza.
C'est des pizzas contaminées, c'était un manque d'hygiène.
Mais ça, vous pensez.
Terrible.
Voilà, mais c'est un manque d'hygiène, c'est autre chose. Vous me parlez vous me parlez de quelque chose quand même de spécifique, c'est. Tromperie sur la qualité, ça veut dire
la qualité.
Viande qui a outrepassé donc les limites de consommation et qu'on reconditionne quand elle a même un aspect, vous m'avez parlé d'aspect vraiment inquiétant. Vous avez parlé de viande noire, inquiétant. Viande pourrie. Donc,
Oui, moi j'ai fait comme je vous dis, et je le répète, j'ai fait des merguez avec du bœuf et de l'agneau qui étaient dans des liquides visqueux, des chipolatas, pareil. Et j'aurais fait que dans un magasin, mais je l'ai fait dans plusieurs grandes surfaces. Donc à partir du moment-là, c'est là que vous commencez, que vous vous dites, faut que cette mascarade arrête, mettre quelqu'un sur le tapis.
Ça, Laurent, comme vous avez fait plusieurs grands magasins de grande distribution, c'est une habitude, c'est même pas maintenant, on prend même plus de précautions pour vous demander de faire ça, c'est rentrer dans les mœurs.
Non, c'est rentrer dans les mœurs. Et puis de toute façon, il faut savoir que les chefs bouchers, on leur alloue une prime, d'accord ? Une prime, on leur alloue moins il y aura de pertes, plus la prime pour eux sera alléchante. Ouais. Donc bien évidemment, c'est encore la course au billet. C'est ce que je dis toujours. C'est une course infernale au biais. Et donc, c'est à partir du moment-là que les gars, ils sont prêts à faire n'importe quoi.
Et donc, vous n'avez pas reçu de menaces et tout ça avec la sortie de votre bouquin ? Parce que c'est chaud quand même. Hein.
aussi, j'ai reçu des menaces, j'étais obligé d'aller à la police, des menaces de mort, j'ai reçu des menaces, des vraies menaces. J'ai été aussi agressé dans la rue par des personnes, même quand je vais dans une grande surface. L'autre jour, c'est pareil, y a un gars qui est carrément sorti de son rayon en me disant « Mais attends, t'as pas peur de te mailler en me poussant comme ça ?» sur l'épaule. Quoi, et qui me disait « Mais t'as pas peur de travailler dans les grandes surfaces avec tout ce que tu nous as sali ?» Je lui ai dit « Mais attends, je l'ai regardé, je lui ai dit « Je n'ai dit que la vérité. » Et j'avais mon téléphone sur moi, je lui ai dit « Pourquoi tu veux voir les photos ? Je te montre tes photos. T'as quelques temps, voilà quoi. » Et j'ai reçu bien évidemment des menaces par téléphone, des vraies menaces quoi. Mais le truc c'est que bon, mon combat, je veux dire, il est légitime. Mon combat, il est légitime. C'est vrai que quand vous êtes lanceur d'alerte, vous protégez finalement. J'ai voulu protéger la population, mais vous en tant que lanceur d'alerte, vous êtes agressé quoi. Mais c'est là que c'est terrible. C'est vraiment désolant. Alors, c'est ce que je disais, pour revenir juste avant, tout à l'heure, ce que je vous disais, il y a une vidéo qui est virale, mise en ligne par mon éditeur, où j'explique le cas. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a fallu que j'écrive ce livre pour que tous les bouchers de France approuvent mes accusations. C'est-à-dire que moi, ce que je les accuse, il y a plein de boucheries dans toute la France qui parlent et qui disent « Laurent a raison ». Laurent, je fais la même chose. J'ai arrêté le métier parce que, et dans la charcuterie, c'est encore pire. Donc, là, j'ai tapé, je veux dire, dans une fourmilière terrible. Et c'est pour ça, et vous avez raison, Olivier, quand vous dites comme ça, il faut retourner chez l'artisan. Et c'est vrai que chez l'artisan, vous savez, on parle du pouvoir d'achat, mais ils ne payeront pas plus cher, vous savez. Prenez 4 tranches de jambon que vous allez chercher chez un artisan, et prenez 4 tranches de jambon que vous allez chercher en grande surface. Vous allez voir qu'au niveau du prix, c'est sensiblement la même chose.
Oui.
Et même pour un morceau de viande. Et en fait, et en plus, vous n'avez pas, quand vous allez chez l'artisan, vous n'avez pas les transports. Enfin, les parce que des fois, vous savez, il y a des magasins qui se disent « Oui, nous, on vend français. » Ouais, ils vendent français sans problème. Ouais, n'empêche que c'est tu en France. Et,
ouais, chez l'artisan, voilà. C'est plus facile à tracer, hein, la viande.
Voilà. C'est vendu français, puis ça part en Belgique ou en Allemagne, où c'est désossé, quoi. Ouais. Vous voyez ouais. Donc, il y a, via des fois, même des fois la Pologne, quand on sait que les poulets, par exemple les poulets, nous on vendait des poulets polonais, quand on sait que la Pologne ne maîtrise pas les bactéries, mais combien on m'a ramené des filets de poulet qui puaient. Ils disaient, mais attendez, ils puent vos filets de poulet. Mais c'était de Pologne. Mais on avait ordre de dire que c'était du poulet vendu, c'était du poulet français. Vous voyez, même s'il était dans la rôtissoire. Et ça, et c'est comme vous savez, vous parliez de côte de bœuf. Combien de fois j'ai vendu des côtes de bœuf d'Allemagne, d'accord, ou même de l'agneau, hein, du Royaume-Uni, combien de fois que je disais non, parce que j'avais l'ordre de dire non, c'est français, hein, c'est quelque chose, c'est labellisé français. Combien de fois c'est combien de fois j'ai vendu des steaks dans la tranche grasse, on appelle ça la tranche grasse, et tu disais que c'était dans le rump steak. Vous voyez, oui. Donc le bénéfice, il est beaucoup plus important comme ça. Vous faites une marge bénéficiaire beaucoup plus importante pour le boucher. Et ça, vous allez chez l'artisan, vous ne serez jamais dupé comme ça. Et c'est là que je tire l'alerte rouge, parce que je dis qu'il y aura un jour, il y aura des morts avec cette viande maturée. C'est pareil, la viande maturée. Tout le monde aujourd'hui se dit maturateur, mais c'est pas vrai. Olivier.
Maturateur, c'est quoi, dites-moi?
C'est de la viande que vous laissez une trentaine de jours, hein, dans oui. une, hein, et en fait, vous avez l'absorption de l'air et de l'eau, oui. Et c'est du sel, des plates de sel que vous avez en dessous, et vous laissez ça, mais c'est un vrai métier, ça, c'est un vrai métier.
Oui.
Et ça, vous le... normalement, maturateur, c'est un vrai métier, sauf que la grande distribution, eux, se disent maturateurs. Et le truc, c'est que c'est de la viande, finalement, qui pourrit. C'est de la viande qui pourrit, parce que quand vous achetez une côte de bœuf, admettons, maturée, vous verrez, elle est noire, la viande est noire, oui. elle est noire. Donc, c'est vraiment, mais tout le monde, et je dis qu'un jour, il y aura des morts. Un jour, il y aura quelque chose qui va se passer, c'est parce possible. Que tout le monde ouais. se dit maturateur.
J'ai de Nice, nous écrit au 739-21 qu'il y a un film sur le métier de boucher qui s'appelle Seul contre tous. Vous le connaissez, ce film?
Non, non plus. Non.
Moi non plus. Et bon, vous qui nous écoutez, vous pouvez chercher hein, sur Internet. C'est Gaspard Noé, pardon. Parce que je dis G de Nice. Je vois assez mal avec mes lunettes. Donc, ça n'est pas du tout G de Nice qui nous a écrit. Mais Gaspard Noé, qui en 98 semble avoir fait un film qui s'appelle Seul contre tous sur le métier de boucher.
Ah, vous voyez.
Ben, oui. Ben, je ne sais pas si ça traite de ça hein, exactement. Mais bon. Non, mais c'est malheureux ce que vous nous racontez. Et merci pour votre courage et pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Laurent, parce que vous dénoncez quand même quelque chose qui remet en question largement la confiance qu'on peut avoir quand on va. En tout cas, ça n'est pas moi, ça ne me concerne pas. Parce que je vous dis, je ne mange pas de viande, mais c'est vrai que je vois là le printemps arriver et les barbecues qui vont recommencer et qui recommencent déjà à fond dans le sud hein, depuis ce week-end. Il y en a de la viande comme ça qui s'écoule chaque week-end. Donc,
bien évidemment. Mais vous savez, il y avait une étude hein, de Santé publique France et c'est vrai que le nombre de cas est estimé quand même entre 1,5 million et 2,5 millions hein, par an d'associations. Et le truc, c'est quand même, on arrive à 15 800 à 21 200 hospitalisations. Donc, vous voyez que je raconte pas n'importe quoi. Et même dans les restos, faut se méfier dans les restos. C'est pareil, il y a certains restaurants où j'ai vu des choses absolument apocalyptiques.
Bah, c'est certain. Mais quand
je dis apocalyptique, ouais. C'est un truc de fou. Quoi.
Ouais. Non, mais c'est sûr que si la grande distribution le fait, vous doutez bien qu'il y a des restaurants qui tirent tellement la langue financièrement parlant que pour éviter du gâchis. Je pense que oui, vous avez raison. Il doit s'en passer des vertes et des pas mûres. En tout cas, faites attention, vous, consommateurs de viande. Peut-être ce témoignage, ce soir encore, remettra peut-être une petite goutte dans votre réflexion sur votre consommation de viande, que de toute façon, pour le monde, il serait bon de baisser. Et puis surtout pour votre santé. Globalement, en mangeant moins de viande, vous ferez du bien au monde et vous ferez du bien à vous. Donc, à réfléchir. Merci en tout cas, Laurent, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que votre livre, VA Édition, s'appelle « Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle ». Merci mille fois. Laurent.
Merci, c'est moi qui vous remercie, Olivier. Et je me permets de vous dire quelque chose. Vous êtes peu de médias à avoir parlé de ça. Et je suis tellement heureux parce qu'Olivier, c'est le combat de nos enfants, de vos enfants, c'est le combat de nos parents. Et pour un monde meilleur, arrêtons de tuer inutilement des animaux. Arrêtons. Je supplie le monde. Vous savez, demain, tout le monde va être dans la rue pour la retraite. Mais je dis toujours, ce qui se passe dans ce que vous avez dans les assiettes maintenant, midi et soir, est certainement bien plus dangereux. Et le confinement, pour terminer, vous savez, quand on parle d'arrêt cardiovasculaire et tout ça, on pourra en parler des heures. Hein. Mais vu ce que j'ai mis et vu ce que je mettais dans les merguez et dans les chipolata, le taux de graisse que les gens ne savent pas et qui attrapent et qui après, de toute façon, inévitablement, parce que maintenant, ils ne vont pas consulter et qui ont des problèmes de cœur ou de cholestérol et qui meurent d'une crise cardiaque. Ah tiens, il n'avait rien hier soir. Mais vous savez, manger la malbouffe tue beaucoup plus que la cigarette. Beaucoup plus.
Très bien. Bah en tout cas, bon entendeur. Merci beaucoup, Laurent.
Merci énormément.
Bonne soirée
Olivier,
à vous.
Vous êtes adorable. Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.